On continue notre. Aujourd'hui, ça va être la dernière leçon sur Néhémie. Alors, on va reviser très rapidement ce qu'on a vu la semaine dernière et terminer la leçon. La semaine prochaine, on va être dans le livre d'Esther. Ça donne drôlement parce que, comme on est en train d'étudier ça, cette semaine, dans mes lectures quotidiennes de la Bible, j'ai lu Néhémie. Ça faisait plaisant. Alors, on avait regardé dans le premier point les caractéristiques du leadership de Néhémie. Si on a des choses à apprendre de Néhémie, c'est d'observer, de lire dans l'ensemble du livre de quelle manière il s'est comporté envers le peuple et envers la construction, la reconstruction du temple et la reconstruction du mur de Jérusalem. Alors, il a connu beaucoup de problèmes et on a beaucoup de choses à apprendre de lui. Alors, ce qu'on avait appris sur son caractère, c'est qu'il n'y a jamais de victoire sans travail et sans combat. C'est la même chose aujourd'hui qu'à cette époque-là. Qu'il n'y a pas non plus d'opportunité sans opposition. Quand le Seigneur nous ouvre des portes, souvent aussi l'ennemi place de l'opposition devant nous. Et qu'il n'y a pas de porte ouverte sans que les adversaires ne tentent d'en obstruer l'entrée. Partout où il y a des saints disant « Levons-nous et bâtissons », il y a immanquablement des ennemis qui disent « Levons-nous et opposons ». Et la dernière chose qu'on apprend, c'est que la prière et la parole de Dieu sont essentielles pour la victoire. Si on prendrait l'ensemble du livre, qu'on regarde la place de la parole de Dieu et la place de la prière dans ce livre-là, c'est important. À beaucoup d'endroits dans le livre, on voit que Néhémie et Esdras, qui a été son compagnon pour un bout de temps, ils ont utilisé vraiment ces outils-là. Alors, Néhémie était les chansons du roi. On avait vu que c'était un rôle important à l'époque. Les chansons du roi, c'était celui qui devait goûter ses aliments et boire du vin avant que lui, avant que le roi. Alors, c'est un poste de toute première importance, un poste de très grand prestige. Tu étais très proche du pouvoir, très proche du roi. Et ça prenait quelqu'un qui avait en qui tu pouvais faire vraiment confiance. On avait pris c'était une position qui était honorable et qui était d'une grande influence et de grande responsabilité. Et on avait vu qu'à l'intérieur de tout cela, dans sa position, on a vu certaines caractéristiques de son caractère. Il était un homme conscient des besoins du peuple de Jérusalem quand ils sont retournés. C'était un homme aussi qui était concerné. Alors, il voyait les besoins et prenait vraiment les choses à cœur. Par exemple, quand il a appris que ça allait mal à Jérusalem, que les murs étaient en ruine, il a osé se présenter devant le roi en étant triste. Et à l'époque, faire ça, c'était risquer sa vie. C'était d'aller devant le roi. Les rois étaient très puissants à cette époque-là. Et c'était comme si tu allais devant le roi, puis tu disais, c'est comme tu disais, je suis malheureux à votre service. Fait que c'était très dangereux de faire ça. Quand tu lis le livre, il dit aussi que quand il s'est présenté triste devant le roi, que le roi lui a demandé pourquoi, qu'il était triste, il dit, j'ai été effrayé. Il savait que ce qui pouvait arriver. Alors, c'est un homme qui était concerné. C'est un homme qui avait confiance en Dieu. Tout au long du livre, on voit que chaque fois qu'il y avait des problèmes, soit avec les opposants extérieurs ou avec les opposants qu'il y avait à l'intérieur même du peuple d'Israël, il avait confiance en Dieu. À chaque fois, il se revirait de bord, puis il parlait au Seigneur, puis il demandait au Seigneur de l'aider. C'est un homme qui était consacré, vraiment très consacré. Quand on lit jusqu'à la fin, les derniers chapitres surtout, il dit souvent, quand il fait quelque chose de bien, Seigneur, souviens-toi de moi. Alors, il a fait beaucoup de sacrifices. Il était gouverneur. Le roi lui avait donné la fonction de gouverneur. Et comme gouverneur, tu avais le droit de lever des taxes. Tu avais le droit de vivre à partir de ce que le peuple donnait. Tu avais le droit comme gouverneur de faire ça. Et lui, non seulement il n'a pas pris les revenus qu'il aurait pu avoir comme étant gouverneur, mais il dit qu'il a pris des centaines de personnes à sa table. il tuait des animaux. Autrement dit, il a pris sa fortune personnelle et il n'a pas imposé de charges au peuple. Ça prend un homme qui aime le peuple, là, faire ça. Là. Alors, c'est un homme qui était consacré, c'est un homme qui était aussi très courageux. Si on regarde l'ensemble des difficultés, de l'opposition qu'il y a eu, à la fois de l'extérieur et à la fois de l'intérieur, on voit que c'est un homme qui était très courageux. Il était aussi conscient des coups. Quand tu fais quelque chose, tu arrives dans une ville où tout est rasé, puis que tu sais qu'il y a des ennemis qui sont prêts à t'attaquer pour venir te tuer, pour essayer de t'empêcher de construire. Ça prend un homme qui a le sens de l'organisation, ça prend un homme qui est vraiment un bâtisseur et qui voit clair et qui est capable d'organiser les choses. Et donc, on avait vu le deuxième point, Néhémie le bâtisseur. C'est un homme qui a eu un grand talent pour savoir planifier le travail. Autrement dit, il est arrivé là, je me souviens plus avec combien de personnes, mais quand tu étudies le livre en profondeur, tu te rends compte que quand il dit à côté d'un, il y avait un tel, à côté de l'autre, il y avait un tel, et quand les commentateurs, ils disent que c'est tout étudié pour profiter au maximum des connaissances et des liens affectifs qu'il y avait entre ces groupes-là. Autrement dit, c'est un homme qui savait faire travailler le monde ensemble pour que le mur se monte le plus rapidement possible. Donc, c'est un planificateur. Et aussi, c'est un homme qui a performé dans le travail. Mais là, il a rencontré de l'opposition. On en a parlé la semaine dernière, l'opposition extérieure. Donc, il y avait de la critique des Arabes et de d'autres nations qui ont cherché à lui faire peur, qui ont utilisé toutes sortes de tactiques pour essayer de l'empêcher de construire. Et il y a eu aussi des combats parce que, comme on dit dans la il construisait la truelle d'une main puis l'épée dans l'autre. Autrement dit, t'es en train de construire puis des fois faut que tu lâches ta truelle puis faut que tu te battes. Alors il a fait ça durant une... on a utilisé la tromperie aussi pour s'opposer à lui. Donc on a essayé de l'inviter au compromis, de l'emmener dans des situations où il se compromettait, où il aurait pu se servir du compromis pour l'accuser ensuite. On a utilisé le bluff. Il disait, je vais aller dire au roi que tu veux faire telle affaire, que tu veux détruire la ville. Tu sais, il utilisait toutes sortes de mensonges. Et on a essayé de salir sa réputation. Et on a payé des hommes pour créer des difficultés. Alors, il n'y a pas grand-chose qu'on n'a pas essayé pour essayer de le faire stopper. Maintenant, il y en a aussi de l'opposition. Quand tu as de l'opposition qui vient de l'extérieur, c'est tes ennemis, mais ceux qui travaillent à l'intérieur, normalement, c'est tes amis. Mais il y avait des problèmes qui étaient créés par le peuple lui-même. Alors, parmi ces problèmes-là, il y avait l'ampleur de l'œuvre. Autrement dit, quand les gens se sont rendus compte, l'ancien Jérusalem, là, ça devait être énorme, ça devait être très grand. Là. Quand tu te rends compte de l'œuvre, tu te dégonfles, autrement dit. Quand tu vois, ça n'a pas de bon, ce gars m'a donc tout ce qu'il y a à faire. Tu sais. Le premier, c'était plein de débris, il fallait que tu enlèves les débris, il fallait que tu construises. C'était vraiment un job où ce que le peuple aurait pu facilement se décourager. Tu avais la convoitise aussi, parce qu'à l'intérieur du peuple, il y en avait qui étaient financièrement plus avantagés que les autres, et ils prêtaient à intérêt. C'est drôle, pareil, parce que dans la Bible, on parle de 1% comme étant de l'intérêt, comme étant de l'usure. Aujourd'hui, on est rendu à pas loin de 30%, puis c'est légal. Pour nous dire. Alors, il y avait la convoitise, il y avait des conflits d'intérêts. Il y avait alors Néhémie a fini par compléter l'ouvrage malgré tout ça. On était rendu là. Donc là, on était rendu à un autre aspect du travail que Néhémie a fait durant la reconstruction. Donc Néhémie dans son rôle de gouverneur. C'était un leader fort qui a maintenu l'œuvre debout et qui a maintenu le moral des troupes pour reconstruire. Donc, il a persévéré et il a cherché le bien-être du peuple, même après que la muraille a été construite. Et il l'a fait par différents moyens. La lecture de la parole de Dieu, tout à l'heure quand on disait que il y avait la parole de Dieu qui était utilisée, puis la prière. On a un exemple ici dans 8, au chapitre 8, les versets 8 et 9. Ça dit, « Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et les scribes, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. » Il y a quelque chose d'intéressant ici. Pourquoi le peuple pleurait? Parce que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas entendu la parole. Puis là, il l'entendait, puis ça les touchait. Alors, la lecture de la parole de Dieu, on voit qu'il était avec Esdras. Esdras, on dit que c'était un scribe versé dans la loi de Dieu. Et lui, il était le gouverneur. L'un, c'était plus l'aspect politique, l'autre, c'était plus l'aspect religieux. Alors, les deux ont toujours travaillé ensemble. Mais ils ont utilisé la parole de Dieu. Et il y a eu aussi le moyen qu'ils ont utilisé comme gouverneur pour garder le peuple ensemble et motivé. C'était le rétablissement des fêtes. Parce que quand ils sont allés 70 ans à Babylone, les fêtes, ils ne devaient pas être aussi bien organisés dans le temps que tu étais à l'extérieur d'un autre pays que quand tu es chez vous. Alors, dans Néhémie 8, versets 14 et 15, ça dit « Et ils trouvèrent écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrite par Moïse que les enfants d'Israël devaient habiter sous les tentes pendant la fête du septième mois. » Et proclamer cette publication dans toutes leurs villes et à Jérusalem. Allez chercher à la montagne des rameaux d'olivier, des rameaux d'olivier sauvages, des rameaux de myrte, des rameaux de palmier et des rameaux d'arbres touffus pour faire des tentes comme il est écrit. Même aujourd'hui, les Juifs, dans une ville comme Montréal, c'est des choses qu'ils continuent à faire. Ça, c'est la fête des cabanes qu'ils appellent. En tout cas, c'est ils ont commencé à vouloir rétablir les anciennes coutumes, fêtes que l'Éternel avait établies à Jérusalem. Et aussi, bien entendu, ils ont utilisé la confession des péchés. Chapitre 9, versets 32-34. Néhémie dit, « Et maintenant, ô notre Dieu, Dieu grand, puissant et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui exerces la miséricorde, ne regarde pas comme peu de choses toutes les souffrances que nous avons éprouvées, nous, nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs, nos prophètes, nos pères et tout ton peuple, depuis le temps des rois d'Assyrie jusqu'à ce jour. Tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu t'es montré fidèle et nous avons fait le mal. Nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs et nos pères n'ont point observé ta loi. Et ils n'ont pas été attentifs ni à tes commandements, ni aux avertissements que tu leur adressais. » Autrement dit, c'est une période où ils conscientisaient le peuple que les raisons qu'ils arrivaient des choses, c'est parce qu'ils avaient été désobéissants. Aussi, ils ont utilisé le renouvellement de l'Alliance, chapitre 9, verset 38. « Pour tout cela, nous contractâmes une alliance que nous mîmes par écrit. » Et nos chefs, nos lévites et nos sacrificateurs y apposèrent leurs sceaux. Quand on étudie, pourquoi dans beaucoup d'églises, quand on reçoit des nouveaux membres, souvent on lit ce qu'on appelle l'alliance, c'est tiré de là. Des fois on se demande d'où viennent les choses, mais ça vient de là. Et aussi, il y a beaucoup cherché à repeupler Jérusalem comme tel. Dans Néhémie chapitre 11, ça dit, « Et les chefs du peuple s'établir à Jérusalem. Le reste du peuple tira au sort pour qu'un sur dix vint habiter à Jérusalem, la ville sainte, et que les autres demeurassent dans les villes. Le peuple bénit tous ceux qui consentirent volontairement à résider à Jérusalem. » Il faut croire que ce n'est pas quelque chose qui est si populaire que ça que de vouloir rester dans la capitale. Parce que quand tu restes dans la capitale, automatiquement, s'il y a des attaques militaires, tu es sûr que tu vas être pogné dans la guerre. Alors, les gens sont peut-être portés à vouloir s'en aller en campagne autour de Jérusalem. Alors, lui, il cherchait à ce que le monde reste dans Jérusalem. C'était important de reconstruire la ville. Il y avait aussi la repentance des péchés. Alors, il y a plusieurs passages où il vient rappeler au peuple leurs péchés, les alliances défendues comme par exemple le fait de te marier avec des femmes de d'autres nations. Il y avait le non-paiement de la dîme, les gens ne payaient plus leur dîme, alors ça créait des problèmes financiers. Le travail le jour du sabbat, si vous avez déjà lu ce livre-là, quand il y a des gens qui se présentaient à la porte pour vendre, pour être là le jour du sabbat, pour pouvoir leur vendre, vous souvenez-vous que ce qu'ils leur faisaient? Ils leur arrachaient la barbe, ils leur arrachaient les cheveux. C'est un homme qui était zélé pour ordinaire. Quand il leur disait, tu viens pas ici le jour du sabbat, là, t'étais mieux de pas y aller parce que il était, disons qu'il avait du caractère. Il avait beaucoup de caractère. Alors, il leur reprochait le travail le jour du sabbat. Il leur reprochait les mariages interraciaux. Et il leur reprochait aussi l'usage inapproprié du temple. Quand on relit le livre, on se rend compte qu'à quelque part, il y a un des ennemis de Néhémie qui avait réussi, parce qu'il était, il avait de la parenté, il avait réussi à s'établir dans un lieu saint à l'intérieur de... Et lui, quand il s'est rendu compte de tout ça, il a tout fait prendre ses enfants, il a tout fait chuter sur des... Oh, disons qu'il avait vraiment du caractère. Alors, l'usage inapproprié du temple, il prenait pas, puis il s'en occupait. Tu sais, c'était pas juste de dire vous faites pas bien. Il s'occupait de sortir les cochonneries de où ce qu'ils n'ont pas d'affaire à être là. Il y avait aussi la joie lorsque l'ouvrage de Dieu est accompli selon les voies de Dieu. Il en résulte inévitablement de la joie. Alors, ils ont fait des repas festifs, ils ont célébré musicalement, ils ont chanté, ils ont louangé. On dit dans chapitre 12, verset 43, « On offrit ce jour-là de nombreux sacrifices et on se livra aux réjouissances, car Dieu avait donné au peuple un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants se réjouirent aussi, et les cris de joie de Jérusalem furent entendus au loin. » Et il a aussi utilisé la répétition et l'exhortation. Néhémie connaissait le pouvoir de la répétition pour inculquer une idée ou une pratique. Il rappelait constamment aux leaders et au peuple leur responsabilité et leur devoir envers Dieu et envers eux-mêmes. Alors, on voit que c'est pas nouveau la répétition, puis toujours dire la même affaire, c'est parce que c'est un peu comme le principe de la publicité, c'est à force de répéter que tu finis par faire rentrer quelque chose que tu aimerais qu'il rentre. Là, on va regarder le contenu du livre. La partie qu'on va lire, c'est vraiment tiré du volume 2 du survol de l'Ancien Testament du pasteur Garrett Crossley, qui est un réformé baptiste anglais d'Angleterre. Il a fait un travail extraordinaire avec toute la Bible. Il a pris chacun des livres à partir de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse et il a fait ce qu'on appelle un survol, une explication du livre dans son ensemble, mais pas un vrai commentaire comme on trouve verset par verset, là, mais un survol, ça le dit, c'est une... Alors, il a fait un travail extraordinaire. Donc, lui, il dit, le livre est en grande partie autobiographique, donc ça compte la vie de Néhémie. Ça relate l'activité de Néhémie sous le règne de Artaxerxès Ier, roi de Perse, entre la 20e et la 32e année de son règne, c'est-à-dire en 445 et 433 avant l'ère chrétienne. Le prophète Malachie se trouve à Jérusalem, lui aussi, résolument engagé à poursuivre l'œuvre que Dieu lui a confiée à cette période. Ce livre brosse le portrait saisissant d'un homme qui travaille pour Dieu. Si Esdras est l'exemple même du serviteur de la parole, souci de se présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Néhémie est au service de Dieu, c'est un ouvrier qui associe le dur labeur à l'ingrédient essentiel de la prière régulière et persévérante. Comme je l'ai dit tantôt, Néhémie, c'est à plus l'aspect politique de réunir le monde, à retourner, reconstruire. L'autre, c'est plus l'aspect religieux, l'enseignement de la parole de Dieu. Alors, les deux hommes ont joué un rôle important, mais différent. Donc, dans la partie le chapitre 1, aller jusqu'au chapitre 2-10, on voit que Néhémie naît dans la communauté juive exilée à Babylone. Autrement dit, il était juif, mais il était venu au monde à Babylone. C'est spécial. Il parvient au poste élevé des chansons du roi, qui était un puissant monarque du vaste empire perse de l'époque. Alors qu'il est au service du roi à Suse, la capitale, Néhémie apprend qu'Anani, l'un de ses frères, ville de Jérusalem, est dans une situation catastrophique et que les habitants de Juda sont généralement opprimés et découragés. Néhémie prie de façon sincère et persévérante. C'est un homme pieux et droit. Il craint Dieu, obéit à sa loi et se sent très concerné par l'honneur et par la gloire de l'Éternel. C'est aussi un homme de prière. Il prie en privé, mais aussi en compagnie de ses frères. C'est ce qu'indiquent ses paroles. « Ah, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. » C'est un homme de prière. Après 4 mois de prière, et par la providence divine, une occasion se présente à Néhémie de faire connaître ses préoccupations au roi. Avec un courage remarquable, il répond à ses questions et il expose clairement sa requête. Il souhaite se rendre en Juda pour rebâtir Jérusalem. Comme preuve de la profonde estime qu'il a pour lui, le roi accède à sa demande et lui promet une forte escorte armée. Néhémie sait bien cependant qu'il doit attribuer à l'intervention d'une autorité encore plus élevée les bonnes dispositions du roi de Perse. Cet homme de Dieu l'exprime ainsi. « Le roi me donna ses lettres, car la bonne main de Dieu était sur moi. » Autrement dit, il se rend compte que le roi, oui, il dit « Vas-y », puis même il lui fournit les matériaux, puis il lui fournit toutes les autorisations, mais lui est très conscient que, dans le fond, c'est parce que la bonne main de Dieu était sur lui. Alors, à partir du chapitre 2, aller jusqu'au chapitre 6, verset 19, c'est vraiment la reconstruction des murs de Jérusalem. Une fois arrivé à Jérusalem, Néhémie s'octroie 3 jours de repos, car il a certainement besoin de récupérer du long et fatigant voyage. Puis, de nuit, il se glisse au dehors, seul, et procède à une évaluation personnelle des dégâts causés aux murs de la ville et à ses portes. Esdras et Néhémie apportent tous deux leur piété particulière à Jérusalem. Ce sont 2 hommes de grande foi, de prière persévérante et d'obéissance empressée. Si en plus Esdras apporte avec lui des années d'études de l'Écriture, de compétences à expliquer et à appliquer la parole de Dieu, Néhémie, pour sa part, fournit à la ville ses capacités d'organisateur et d'administrateur. Tout en faisant le tour de la ville, il élabore son programme de reconstruction. Après avoir procédé à une estimation et décidé d'une stratégie, il en informe les chefs civils et les incite à se mettre au travail avec enthousiasme. Il attribue à la bonté de Dieu le bon déroulement de toutes choses. Après avoir été informé, les hommes des différents corps de métier se présentent et reçoivent les directives nécessaires. Il ne faut cependant pas croire que l'opposition est inexistante. Alors, comme on a vu un peu tantôt, rapidement, cette partie-là, on a vu qu'il y avait eu de l'opposition externe de la part des Arabes et de la part de d'autres nations. On a vu toutes ces choses-là. On va repasser rapidement là-dessus. Et on va aller à la page 12, sur le point organisation, culte et salaire. Alors, une fois que le mur de la ville a été reconstruit, Néhémie constate que les nations furent dans la crainte, car elles reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Autrement dit, après que ça a été fini, il s'est rendu compte que les nations aux alentours étaient dans la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il s'était rendu compte que Dieu avait béni le travail. Il avait réussi à faire ce que, malgré toute l'opposition interne et externe, il avait réussi à le faire. Donc, les peuples alentours se sont rendus compte que l'œuvre a été bénie par Dieu. Il s'est passé un temps considérable, possiblement 12 années, à organiser le petit État de Juda et la vie publique dans la ville de Jérusalem en vue de son départ pour la capitale perse. On sait que quand on lit le livre, il est reparti une secousse, il est retourné faire son travail avec le roi, puis il était parti pour une secousse, puis amené, il est revenu. Alors cette période est marquée par un temps fort, la tenue d'une assemblée ou conférence. Néhémie et Esdras convoquent tous les Israélites, hommes, femmes et enfants, en âge de comprendre ce qui sera dit et ce qui sera fait. Esdras et les Lévites, instruits, enseignent la parole de Dieu au peuple. Après avoir été lus, les Écritures sont traduites par ceux qui ne savent pas l'hébreu et expliquées. Le peuple loue Dieu et célèbre la fête des tabernacles. Il pleure sur son péché, se réjouit de la compassion et de la bonté de Dieu et vit un moment spirituel exceptionnel. Il scelle son engagement à Dieu par une alliance solennelle. On ouvre un registre pour dénombrer les habitants qui vivent à l'intérieur de la ville, ceux qui vivent à l'extérieur, ainsi que les sacrificateurs et les Lévites. Puis, après avoir procédé à la dédicace des murs de Jérusalem et désigné des Lévites pour certaines fonctions dans le temple, Néhémie retourne à Babylone. Et la dernière chose qu'on va regarder, c'est que quand il est revenu, ça l'a nécessité une réforme. Ça ne prend pas de temps pour se détériorer. Même s'il avait tout bien organisé, il était parti un certain temps, puis quand il est revenu, déjà il y avait des cochonneries qui s'étaient introduites dans les choses. Alors après une période d'absence de la cour perse, Néhémie revient à Jérusalem et constate qu'une énorme nouvelle réforme s'impose. Le souverain sacrificateur Éliashib a mis une chambre du parvis de la maison de Dieu à la disposition de Tobija l'ammonite. Tu as mis une affaire sainte à la disposition d'un ennemi. Elle lui sert probablement de pied à terre quand il est en ville. Cet homme est l'ami intime de Sanballat. Aucun des deux n'a témoigné la moindre amitié à Israël. Néhémie condamne fermement cette alliance mondaine entre Éliashib et Tobija. Il jette dehors toutes les affaires personnelles de Tobija, ordonne la purification des chambres et rend leur rôle voulu par Dieu. Il s'attaque également au vieux problème des mariages mixtes. La question n'est pas d'ordre racial ni culturel, mais religieux. Les Israélites ne doivent pas épouser des païens, sauf si ces derniers embrassent la foi juive. Les enfants de Dieu ne doivent pas s'unir par mariage avec des païens et des incroyants. Dans le mariage, le conjoint impie entraînera l'enfant de Dieu dans l'idolâtrie et le péché. Néhémie évoque l'exemple du roi Salomon pour montrer que, tout en étant aimé de son Dieu, il tomba dans le péché et sous l'influence de nombreuses femmes étrangères. Il engage alors une réforme radicale qui est assortie d'asservissement solennel. Il y a beaucoup de leçons là-dedans. Hein. La preuve, c'est qu'aussitôt que quelque chose est construit, ça commence à se détériorer si tu ne fais pas attention à réformer tout ça d'une façon régulière. Comme application, nous avons beaucoup à apprendre et à méditer dans le livre de Néhémie sur la puissance et sur la fidélité du Seigneur, sur le caractère spirituel exemplaire de Néhémie, sur la prière, sur l'opposition dans la construction de l'œuvre de Dieu et comment la vaincre bibliquement, sur la repentance, sur l'ardeur au travail et la persévérance, etc. Lisons en méditant davantage et en considérant comment le livre peut nous aider dans notre marche quotidienne moderne. Ce qui était vrai à l'époque l'est encore de nos jours. Que le Seigneur Jésus-Christ soit béni, loué et adoré par sa grâce et pour sa gloire.